Passion lire, la chronique littéraire de Gilles Labourois. Bonjour, voici quelques minutes de littérature que je partage avec vous. Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux, disait Jules Renard. Aujourd'hui, La Petite Bijou, de Patrick Modiano. Thérèse, la Petite Bijou, est une jeune femme de 19 ans qui croise par hasard dans le métro à la station Châtelet une femme en manteau jaune, qui physiquement lui rappellera sa mère, officiellement morte au Maroc depuis plusieurs années. Bouleversée par cette rencontre, elle se met à la suivre jusqu'à sa modeste habitation à Vincennes, sans l'aborder, et évoque son enfance avec cette mère distante et immature, qui était appelée la Bauche, qu'elle a peu connue et qu'il avait confiée à une institution lorsqu'elle avait 8 ans. Les épisodes douloureux de son enfance continuent de perturber la jeune femme, qui ne réussit pas à vivre sa vie en étant en perpétuelle quête d'explications sur cet abandon et à la recherche de ses origines familiales. Dans un Paris froid et hostile de la gare de Lyon et du bois de Boulogne, mais aussi des environs de la place Blanche et de la rue Coustou où elle habite, plusieurs personnages croiseront l'errance et la recherche d'identité de Thérèse, qui, après une ultime rencontre et tentative de suicide, renaîtra à la vie. Patrick Modiano est né le 30 juillet 1945 à Boulogne-Billancourt. Il est le fils d'Albert Modiano, administrateur de société, trafiquant de marché noir dans sa jeunesse, vivant dans le milieu des producteurs de cinéma d'originaire d'Europe centrale, et de Louisa Kolpinch, comédienne flamande, arrivée à Paris en juin 1942. Son père s'installe début 1943 au 15 quai de Conti avec sa nouvelle compagne, là où vécut l'écrivain Maurice Sachs. Le couple mènera la vie de château et fréquentera la pègre jusqu'à la libération, qui coïncide avec la naissance de leur fils aîné, Patrick. L'enfant, Patrick Modiano, est confié à ses grands-parents maternels, renforçant chez lui le flamand comme langue maternelle. L'atmosphère particulière de cette enfance, entre l'absence de son père, au sujet duquel il entend des récits troubles, et les tournées de sa mère, le rend très proche de son frère Rudy. La mort de celui-ci, à la suite d'une leucémie à l'âge de 10 ans en février 1957, sonne la fin de l'enfance. L'écrivain gardera une nostalgie marquée de cette période et dédiera ses premiers ouvrages, publiés entre 1967 et 1982, à ce frère disparu. Soutenu depuis l'âge de 15 ans par Raymond Queneau, ami de sa mère rencontré en 1960, il décroche son baccalauréat à Annecy en juin 1962, avec un an d'avance. Comme son père, il a l'ambition balzacienne de faire fortune, mais en devenant écrivain. À la rentrée 1965, il s'inscrit à la Sorbonne en faculté de lettres pour prolonger son sursis militaire, mais il n'assiste à aucun cours. Il y publiera son premier roman en 1968, La place de l'étoile. À partir de cette année, il se consacre exclusivement à l'écriture. Le 12 septembre 1970, il épouse Dominique Zerfus, fille d'architecte. De cette union naîtront 2 filles. En 1973, il écrit avec le réalisateur Louis Malle le scénario du film La Combe Lucien, dont le sujet est un jeune homme désireux de rejoindre le maquis pendant l'occupation, mais que le hasard fait basculer dans le camp de la milice et de ceux qui ont emprisonné son père. En novembre 1978, il parvient à la consécration avec son 6e roman, Rue des boutiques obscures, en recevant le prix Goncourt. Les multiples prix littéraires qui ont couronné les romans de Patrick Modiano, depuis le prix Roger Nimier pour La place de l'étoile, son premier roman en 1968, puis le grand prix du roman de l'Académie française pour Les boulevards de ceinture en 1972, le prix des libraires pour Villa Triste en 1976, le prix Goncourt pour Rue des boutiques obscures en 1978, jusqu'au prix Nobel de littérature en 2014, suffisent déjà à justifier la place particulière que nous lui accordons. L'autre raison est que ces romans, auxquels on a parfois reproché d'être toujours le même livre, se situent précisément au confluent de deux tendances, dans les coulisses de l'histoire et en quête de soi. Et cette quête, chez lui aussi, remonte aux sources de l'inconscient, les figures familiales absentes, celle du père avec lequel il a rompu dès ses 17 ans, la mère artiste en tournée, le jeune frère Rudy, mort tout jeune, et pourtant si prégnante. Elles conduisent en effet l'écrivain à arpenter les lieux de mémoire, notamment parisiens, d'un passé insaisissable tout autant qu'ineffaçable. Il s'agit, comme il le dit dans « Quartier perdu » en 1985, de visiter les ruines et de tenter d'y découvrir une trace de soi. Autre obsession de Patrick Modiano, la période de l'occupation allemande. Né en 1945, il ne l'a évidemment pas connue, mais il s'y réfère sans cesse à travers le désir de cerner la vie de ses parents durant cette période, au point de se l'approprier et d'y plonger certains de ses personnages. C'est un véritable archéologue de la mémoire, relevant et conservant le moindre document, insignifiant au premier abord, afin de réunir des informations à propos de lui-même, de proches ou bien d'inconnus. Certaines pages sont travaillées de façon à sembler être écrites par un détective ou par un historiographe. Une douzaine d'années avaient passé depuis que l'on ne m'appelait plus la petite Bijou, et je me trouvais à la station de métro Châtelet à l'heure de pointe. J'étais dans la foule qui suivait le couloir sans fin sur le tapis roulant. Une femme portait un manteau jaune. La couleur du manteau avait attiré mon attention, et je la voyais de dos sur le tapis roulant. Puis elle marchait le long du couloir, où il était indiqué « Direction Château de Vincennes ». Nous étions maintenant immobiles, serrés les uns contre les autres au milieu de l'escalier, en attendant que le portillon s'ouvre. Elle se tenait à côté de moi. Alors j'ai vu son visage. La ressemblance de ce visage avec celui de ma mère était si frappante que j'ai pensé que c'était elle. Une photo m'était revenue en mémoire, l'une des quelques photos que j'ai gardées de ma mère. Son visage est éclairé comme si un projecteur l'avait fait surgir de la nuit. J'ai toujours éprouvé une gêne devant cette photo. Dans mes rêves, chaque fois, c'était une photo anthropométrique que quelqu'un me tendait, un commissaire de police, un employé de la morgue, pour que je puisse identifier cette personne. Mais je restais muette, je ne savais rien d'elle. Elle s'est assise sur l'une des bancs de la station, à l'écart des autres qui se serraient au bord du quai en attendant la rame. Il n'y avait pas de place libre sur le banc, à côté d'elle, et je me tenais debout, en retrait, appuyé contre un distributeur automatique. La coupe de son manteau avait été sans doute élégante autrefois, et sa couleur vive lui donnait une note de fantaisie. Mais le jaune s'était terni, et il était devenu presque gris. Elle paraissait ignorer tout ce qui l'entourait, et je me suis demandé si elle resterait là, sur le banc, jusqu'à l'heure du dernier métro. Le même profil que celui de ma mère, le nez si particulier, légèrement relevé du bout, les mêmes yeux clairs, le même front haut. Les cheveux étaient plus courts? Non, elle n'avait pas beaucoup changé. Les cheveux n'étaient pas plus aussi blonds, mais après tout, j'ignorais si ma mère avait été vraiment blonde. La bouche se contractait dans un pli d'amertume, j'avais la certitude que c'était elle. Dans la lumière crue, elle paraissait plus vieille que sur le quai. Une cicatrice lui barrait la tempe gauche et une partie de la joue. Quel âge pouvait-elle avoir? Une cinquantaine d'années? Et quel âge sur les photos? 25 ans. Le regard était le même qu'à 25 ans, clair, exprimant l'étonnement ou une crainte vague, et il se durcissait brusquement. Par hasard, il s'est posé sur moi, mais elle ne me voyait pas. Elle a sorti de la poche de son manteau un poudrier qu'elle a ouvert. Elle a rapproché le miroir de son visage et elle passait le petit doigt de sa main gauche au coin de la paupière comme pour chasser une poussière de son œil. Le métro prenait de la vitesse. Il y a eu un chaos. Je me suis retenu à la barre métallique. Mais elle, elle n'a pas perdu l'équilibre. Elle restait impassible, à se regarder dans le poudrier. À Bastille, Ils sont parvus tant bien que mal à monter tous et les portières se sont refermées avec difficulté. Elle avait eu le temps de ranger son poudrier avant que les autres affluent dans le wagon. À quelle station allait-elle descendre? La suivrai-je jusqu'au bout? Était-ce vraiment nécessaire? Et il faudrait s'habituer à l'idée qu'elle habitait dans la même ville que moi. On m'avait dit qu'elle était morte, il y avait longtemps, au Maroc, et je n'avais jamais essayé d'en savoir plus. Elle était morte au Maroc. L'une de ces phrases qui datent de l'enfance et dont on ne comprend pas tout à fait la signification. De ces phrases, seule leur sonorité vous reste dans la mémoire comme certaines paroles de chansons qui me faisaient peur. Il était un petit navire. Elle était morte au Maroc. Elle est entrée dans le café, à côté de la pharmacie. J'ai hésité avant de la suivre, mais je me suis dit qu'elle ne me remarquerait pas. Qui étions-nous toutes les deux? Une femme d'âge incertain et une jeune fille perdue dans la foule du métro. De cette foule, personne n'aurait réussi à nous distinguer. Et quand nous étions remontés à l'air libre, nous étions semblables à des milliers et des milliers de gens qui reviennent le soir dans leur banlieue. Elle était assise à une table du fond. Le blond joufflu du comptoir lui avait apporté un kir. Il faudrait vérifier si elle venait ici chaque soir à la même heure. Je me suis promis de retenir le nom du café. Calcia 96 avenue de Paris. Le nom était inscrit sur la vitre de la porte, un arc de cercle et en caractère blanc. Dans le métro, sur le chemin du retour, je me répétais le nom et l'adresse pour l'écrire dès que je le pourrais. On ne meurt pas au Maroc. On continue de vivre une vie clandestine après sa vie. On boit chaque soir un kir au café Calcia et les clients ont fini par s'habituer à cette femme au manteau jaune. On ne lui a jamais posé de questions. Je m'étais assis à une table, pas très loin de la sienne. Moi aussi, j'avais commandé un kir, à haute voix, pour qu'elle l'entende, en espérant qu'elle verrait là un signe de connivence. Mais elle était restée impassible. Elle gardait la tête légèrement penchée, le regard à la fois dur et mélancolique, les bras croisés appuyés sur la table, dans la même attitude que celle où on la voyait sur le tableau. Qu'est-il devenu, ce tableau? Il m'avait suivi pendant toute mon enfance. Il était accroché au mur de ma chambre, à Fossombrone-la-Forêt. On m'avait dit, c'est le portrait de ta mère. Un type qui s'appelait Tola Sungurov l'avait peint à Paris. Le nom et la ville étaient inscrits en bas du tableau sur le côté gauche. Les bras étaient croisés, comme maintenant, à cette différence près qu'un lourd bracelet à chaînon entourait l'un des poignets. J'avais là un prétexte pour engager la conversation. « Vous ressemblez à une femme dont j'ai vu le portrait la semaine dernière au marché des puces, porte de Clignancourt. Le peintre s'appelait Tola Sugurov. Mais je ne trouvais pas l'élan pour me lever et me pencher vers elle. » À supposer que je parvienne à prononcer la phrase sans me tromper. Le peintre s'appelait Tola Sungurov et vous, Sonia. Mais c'était un faux prénom, le vrai, tel qu'on peut le lire sur mon acte de naissance, était Suzanne. Oui, une fois la phrase prononcée, très vite, qu'est-ce que cela m'apporterait de plus? Elle ferait semblant de ne pas comprendre. Ou bien les mots se bousculeraient sur ses lèvres et ils viendraient dans le désordre parce qu'elle n'avait parlé à personne depuis longtemps. Mais elle mentirait, elle brouillerait les pistes, comme elle l'avait fait à l'époque du tableau et des photos en trichant sur son âge et en se donnant un faux prénom, et aussi un faux nom, et même un faux titre de noblesse. Elle laissait croire qu'elle était née dans une famille de l'aristocratie irlandaise. Je suppose qu'un Irlandais avait croisé son chemin, sinon elle n'aurait pas eu cette idée-là. Un Irlandais. Mon père peut-être qu'il serait très difficilement de retrouver... et qu'elle avait dû oublier. Elle avait sans doute oublié tout le reste. Elle aurait été surprise que je lui en parle. Il s'agissait d'une autre personne qu'elle. Les mensonges s'étaient dissipés avec le temps. Mais à l'époque, j'étais sûr qu'elle y avait cru, à tous ces personnages et ces mensonges. Le blond joufflu lui avait apporté un autre kir. Il y avait maintenant beaucoup de monde devant le comptoir, et ils occupaient toutes les tables. Nous n'aurions pas pu nous entendre dans ce brouhaha. J'avais l'impression d'être encore dans le wagon du métro, ou plutôt dans la salle d'attente d'une gare, sans savoir exactement quel train je devais prendre. Mais, pour elle, il n'y avait plus de train. Elle retardait l'heure de rentrer chez elle. Ça n'était pas très loin d'ici, sans doute. J'étais vraiment curieuse de savoir où. Je n'avais pas du tout envie de lui parler. Je n'éprouvais à son égard aucun sentiment particulier. Les circonstances avaient fini qu'entre nous, il n'y avait pas eu ce qui s'appelle le lait de la tendresse humaine. La seule chose que je voulais savoir, c'était où elle avait fini par échouer, 12 ans après sa mort au Maroc. C'était la chronique littéraire de Gilles Labouroir. À bientôt.